Vous écoutez, on lit pour vous.
Est-on friand de sucre contre son gré? Un texte de Mathieu Perrault paru le 8 septembre 2024 dans la presse. Le sucre est-il addictif? Demande Geneviève Ouellet, une lectrice. La question n'est pas encore résolue. Des experts pensent que oui, d'autres non. Pour Dana Small, spécialiste des liens entre métabolisme et cerveau à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, CUSUM, la théorie selon laquelle une personne peut être dépendante à la nourriture, donc au sucre, est encore controversée d'un point de vue scientifique. Une chose est sûre, une alimentation riche en gras ainsi qu'en sucre modifie bel et bien les circuits du cerveau qui procurent un sentiment de satisfaction quand on mange. Dana Small souligne que, pour la même quantité de calories ingérées, une diète riche en gras et en sucre donne davantage de plaisir. Ça favorise l'ingestion de quantités plus importantes de nourriture. Est-ce que l'accès intermittent au sucre qui touche, par exemple, les personnes qui suivent des régimes yo-yo ou qui souffrent de frénésie alimentaire, binge eating, empire la situation? Certaines études sur l'animal semblent le démontrer, mais les preuves d'un effet néfaste pour l'humain restent à faire. L'accès intermittent au sucre ne fait pas partie des facteurs expliquant la prise de poids ou l'obésité, affirme la chercheuse montréalaise. Quant aux preuves d'un phénomène de sevrage pour l'accoutumance au sucre, comme on peut l'expérimenter lorsqu'on est dépendant à l'alcool et qu'on arrête d'en consommer, elles existent. Mais elles sont minces, signale Dana Small. Les mêmes circuits. Pour créer une dépendance, l'alcool et les drogues empruntent les mêmes circuits neuronaux qui stimulent l'alimentation et l'ingestion de calories. Cela explique la puissance de l'accoutumance qu'ils entraînent. Certains chercheurs considèrent que la dépendance à la nourriture explique l'épidémie d'obésité, indique Dana Small. La neurobiologiste de McGill préfère une perspective plus large. Au lieu d'être le fruit d'une simple dépendance, liée aux circuits neuronaux rattachés à l'accoutumance aux drogues et à l'alcool, l'épidémie d'obésité résulte d'une altération générale de nos capacités cognitives par l'environnement alimentaire moderne. Cela inclut la mémoire, la capacité de raisonner et l'aptitude à prendre des décisions. Dana Small estime que parler de dépendance au sucre n'est pas utile pour prévenir l'obésité. Nous avons tous besoin de manger pour survivre et il y a des mécanismes ancestraux pour assurer que nous ingérons assez de calories. Je pense qu'on devrait réserver le terme « addiction » aux activités autres que l'alimentation qui utilisent le même circuit que l'alimentation dans le cerveau. En savoir plus. 110 grammes, quantité quotidienne de sucre dans l'alimentation du Canadien moyen. Source, Diabète Canada. 4 fois, surreprésentation du sucre dans l'alimentation du Canadien moyen par rapport aux recommandations de la quantité idéale. Source, Fondation, Cœur Plus AVC. C'était « Est-on friand de sucre contre son gré? » Un texte de Mathieu Perrault, paru le 8 septembre 2024 dans La Presse.
La tragédie de Sceaux au cochon, le crime d'Albert Gué, un texte de Dave Noël, paru le 5 septembre 2024 dans Le Devoir. Le 9 septembre 1949, le bijoutier Albert Gué faisait exploser un avion en plein vol pour se débarrasser de son épouse, Rita Morel. Le Devoir est retourné sur les lieux du crime à l'occasion du 75e anniversaire de ce premier attentat à la bombe de l'aviation civile occidentale, qui a notamment inspiré le roman « Le crime d'Ovid Plouffe » de Roger Lemelin. Le bâtiment qui abritait autrefois la bijouterie d'Albert Gué existe toujours, au coin des rues Saint-Sauveur et Châteauguay, dans la basse ville de Québec. Aucune plaque commémorative n'indique toutefois le passage entre ces murs de briques brunes de l'auteur du crime du siècle, dont l'histoire a fait le tour du monde à l'automne 1949. C'était très modeste, explique l'avocat André Sirois, qui a passé son enfance à un jet de pierre de la bijouterie Gay, à l'ombre de l'église Saint-Joseph, aujourd'hui disparue. Une porte, située à l'arrière du commerce, donnait accès à un appartement étroit occupé par son propriétaire. Sirois a gardé un vif souvenir d'Albert Gay, qu'il dépeint en homme effacé, au regard fuyant. Il avait l'air de se méfier de tout le monde, dit celui qui n'était âgé que de 7 ans en 1949. L'octogénaire se souvient surtout de l'épouse du bijoutier, Rita Morel, qui avait débarqué chez ses parents tôt un matin dans sa robe de chambre en satin rose pour fuir un début d'incendie. Selon la rumeur, c'est Gay lui-même qui aurait mis le feu à son commerce pour se débarrasser de sa femme. Tout le quartier en était convaincu, raconte Sirois. La création de la bombe. En 1949, les affaires vont mal pour Albert Gay, qui pense à déménager son commerce sur la côte nord pour y refaire sa vie avec sa maîtresse de 19 ans, Marie-Ange Robitaille. L'infidélité du bijoutier est parvenue jusqu'aux oreilles de son épouse, qui se réfugie chez ses parents, dans le quartier Saint-Roch, en juin. Albert la rejoint toutefois à la fin août, après une réconciliation de façade. C'est dans l'appartement de ses beaux-parents que le bijoutier met la touche finale à son projet d'assassiner Rita. Il a convaincu cette dernière de se rendre sur la côte nord pour récupérer une valise de bijoux. Il lui achète un billet d'avion pour le vol du 9 septembre, avant de contracter une police d'assurance-vie de 10 000 $ à son nom. Ne reste plus qu'à charger une bombe à retardement dans la soute à bagages de l'appareil. L'engin est caché dans un colis censé contenir une statue de la Vierge Marie. Le mot « fragile » est d'ailleurs inscrit en lettres rouges sur la boîte de carton ondulé. Sa livraison est confiée à Marguerite Pitre, qui verra ses dettes effacées par Gay en retour de ses services. Je pense qu'elle a également eu un peu de plaisir à participer à ça, explique l'historien Éric Veillette, auteur de la série « Saut au cochon, le crime du siècle », édition de l'Apothéose, à propos de celle que l'on a malicieusement surnommée « la femme Pitre ». La bombe a été conçue par un sous-traitant de la bijouterie Gay, l'orfèvre généreux Ruet. Elle est constituée d'un réveil matin dont la grande aiguille a été sectionnée afin de donner à l'engin une autonomie de 12 heures. La détonation surviendra lorsque la petite aiguille aura touché une tige métallique reliée à 18 bâtons de dynamite. Le mécanisme n'impressionne guère l'ancien policier Robert Côté, qui a désamorcé une vingtaine de bombes de ce type dans les années 1960, lors des vagues d'attentats du Front de libération du Québec. « C'est la simplicité même, dit-il, dans un entretien avec Le Devoir. Tout ce qu'il fallait qu'il sache, c'était comment transformer un cadran en interrupteur. » En observant la reconstitution de la bombe réalisée par les enquêteurs de l'époque, le spécialiste constate que le réveil matin et la pile sèche utilisée par Généreux Ruet étaient inutilement gros. Mais c'était probablement le matériel le plus facilement disponible en 1949, précise-t-il. Le jour J. Le matin du 9 septembre, Albert joue au mari bienveillant en accompagnant Rita jusqu'au château Frontenac, où se trouvent les bureaux de la Canadian Pacific Airlines. La femme de 29 ans, prend ensuite la route de l'aéroport de l'ancienne Lorette en périphérie de Québec. Le bimoteur DC-3 s'élance sur la piste à 10h25 avec un retard de 5 minutes qui va s'avérer décisif. Il vient tout juste de survoler l'île d'Orléans et le Cap Tourmente lorsqu'il explose à 10h45. L'appareil s'écrase comme une masse sur le flanc d'une montagne boisée à Sceaux-aux-Cochon, dans Charlevoix. Les 23 passagers et membres d'équipage sont décapités au moment du choc, à l'exception notable de Rita Morel, la cible de l'attentat. Les enquêteurs dépêchés sur place remarquent une odeur de soufre qui leur aurait échappé si l'avion était tombé dans les eaux du Saint-Laurent, à quelques centaines de mètres de là. Il y a eu un mauvais timing, c'est le cas de le dire, souligne l'ancien policier Robert Côté. Éric Veillette a parcouru les lieux de l'écrasement en 2021. Il a ainsi pu observer les derniers vestiges de l'appareil, dont on devine à peine la forme au milieu de la forêt. « Je ne me suis pas senti le droit de prendre quoi que ce soit », explique le chercheur, qui se désole du pillage de ce qui demeure à ses yeux une scène de crime. Les enquêteurs mettent 2 semaines pour remonter la piste du soufre jusqu'à Albergué. Dans l'intervalle, le bijoutier pleure sa chère Rita devant sa fille de 4 ans en trimballant un revolver dans ses poches de pantalon. « C'est dans l'épreuve qu'on reconnaît ses vrais amis », lance le veuf de fraîche date au romancier Roger Lemelin, son ancien voisin du quartier Saint-Sauveur, en le voyant franchir les portes du salon funéraire. Guy s'apprête à quitter le logement de ses beaux-parents de la rue du Roi pour s'installer chez sa mère à Limoilou, où il est finalement arrêté dans la soirée du 23 septembre. Le bijoutier était vraisemblablement sous filature depuis les funérailles de sa défunte femme. C'est le genre de détail qu'on va découvrir en 2049, dit Éric Veillette, en référence au scellé de 100 ans apposé au dossier de police. Reconnu coupable de meurtre, Albergué est exécuté à la prison de Bordeaux à Montréal en janvier 1951. « Au moins je meurs célèbre », aurait-il lancé avant de monter les marches de l'échafaud, où le suivront ses complices, Généreux Ruet et Marguerite Pitre. « Ce n'était pas du beau monde », conclura l'auteur des Ploufs, Roger Lemelin, dans les années 1980, en repensant à ce sinistre trio issu des quartiers populaires de la basse ville de Québec. C'était « La tragédie de Sceaux-aux-Cochons, le crime d'Albergué », un texte de Dave Noël, paru le 5 septembre 2024 dans Le Devoir. La tragédie de Sceaux-aux-Cochons, le silence de Marie-Ange, un texte de Dave Noël, paru le 6 septembre 2024 dans Le Devoir. Nous sommes à l'angle de la rue Caron et du boulevard Charest, devant les anciens locaux du restaurant Monte Carlo, dans le quartier Saint-Roch, à Québec. Le bâtiment de style paquebot attire les regards du haut de ses 7 étages de briques jaunes, surmontés d'un mât. C'est ici que travaillait Marie-Ange Robitaille, la maîtresse d'Albergué, à l'été de 1949. La serveuse de 19 ans avait été séduite 2 ans plus tôt par l'élégant bijoutier qui l'a encouragée à quitter le domicile familial pour loger dans des maisons de chambre de la haute ville de Québec. Marie-Ange est graduellement devenue la captive de cet homme marié et de 12 ans son aîné. Albert a ainsi volé le manteau de fourrure de sa maîtresse par une nuit froide d'hiver pour l'empêcher de sortir. Une autre fois, il l'a couverte de sucettes dans le visage afin de la compromettre devant ses proches. Le bijoutier jaloux est allé jusqu'à la menacer avec son revolver aux abords du Monte Carlo. S'il n'avait pas fait tout cela, ma mère serait restée prise avec lui et on ne serait pas là, raconte l'une des filles de Marie-Ange, Claire, dans un entretien inédit avec Le Devoir. Gay avait vraiment un problème. C'était un manipulateur, précise celle qui préfère taire son nom de famille en dépit des 75 ans qui nous séparent des événements de Saut au cochon. Marie-Ange met un terme à cette relation toxique à la fin juillet 1949. Albert renoue alors avec son épouse, Rita Morel, qu'il compte assassiner en la faisant monter à bord d'un avion qu'il fera exploser en plein vol. Il s'est dit que c'était la seule façon de récupérer ma mère, d'être libre, mais il ne lui a jamais parlé de son plan, assure Claire. Si l'attentat est un succès sur le plan technique, il en va autrement de son volet sentimental. Gay doit ainsi tendre un piège à Marie-Ange pour la revoir chez sa complice, Marguerite Pitre, dans les jours suivant l'explosion. La jeune femme repousse toutefois ses avances. « Quand t'auras tes 21 ans, je peux-tu avoir une petite espérance ?» demande le bijoutier pathétique. « Il y a bien des affaires qui ont le temps de se passer dans ce temps-là, » lui répond Marie-Ange. Les chemins des anciens amants se recroisent par hasard dans la rue Saint-Joseph, peu de temps avant l'arrestation d'Albert, le 23 septembre. Les proches du prévenu sont dès lors inondés d'appels de journalistes. Les agences de presse américaines offrent jusqu'à 100 $ pour obtenir des photos du bijoutier et de son ancienne maîtresse. Le public est intrigué par la mystérieuse jeune femme devenue malgré elle l'élément déclencheur du drame. « Ma mère a été traumatisée par cette expérience », explique sa fille Claire. À l'époque, il n'y avait pas de psychologue, rien. Le flot de publicité. Les curieux affluent au Monte Carlo à l'automne 1949. À commencer par le chroniqueur judiciaire de la patrie, Jean Beaubien. Le représentant du journal croyait rencontrer une jeune fille enhardie par la publicité faite autour de son nom, écrit le journaliste à la une de son quotidien. Déception profonde. Car il lui a fallu près de 2 heures avant d'avoir la certitude morale qu'il parlait bien à la personne en question. Beaubien passe de table en table pour rejoindre la section desservie par la femme aux cheveux châtain clair. Rien dans ses gestes n'indique qu'une personne aussi frêle porte sur ses épaules un tel flot de publicité. Le journaliste fait mine de s'intéresser aux goûts musicaux de Marie-Ange, qui lui parle de Jacques Normand et de Monique Lérac, ses artistes favoris, qu'elle a récemment entendus dans son restaurant du boulevard Charest. Peu à peu, la petite serveuse terriblement méfiante s'apprivoise, écrit Beaubien. Le représentant de la patrie retourne au Monte Carlo le lendemain soir. Pendant que je lui parle, je regarde par la fenêtre qui fait face à la caisse et par une persienne discrètement entr'ouverte, je vois les passants nombreux qui effrontément s'arrêtent et jettent un coup d'œil pour dévisager Marie-Ange. Beaubien entend alors la seule allusion directe de la jeune femme à l'affaire de Saut au cochon. J'attends que le procès soit fini. Il y en a qui vont payer, lance-t-elle sèchement. Marie-Ange fait référence aux procédures en libelle qu'elle pense intenter. Elle en veut particulièrement à un journaliste de Toronto qui l'a prise en photo en se faisant passer pour un agent d'assurance. Jean Beaubien quitte les lieux à l'arrivée du nouveau chum de Marie-Ange. Je retraite prudemment, bien qu'elle m'eût dit qu'il n'était pas jaloux, écrit le journaliste. Sur le chemin du retour, je songeais combien de frêles épaules de femmes peuvent faire face avec sang-froid à l'opinion publique. Le procès. La silhouette de Marie-Ange repasse sous le feu des projecteurs à la toute fin du procès d'Albert Gay en mars 1950. À la vue des photographes qui l'attendent aux portes du palais de justice, elle s'empresse de cacher son visage entre ses mains gantées. D'une voix à peine audible, la femme vêtue d'un long manteau noir témoigne de ses amours orageuses avec Albert, qui l'écoute du box des accusés en évitant soigneusement de croiser son regard. L'ancienne serveuse du Monte Carlo devra refaire sa vie dans l'ombre de Sceaux au cochon, dont le souvenir est d'abord maintenu vivace par le roman de gare « Je suis un criminel » de Pierre Bernard, vendu à plus de 20 000 exemplaires au début des années 1950. Roger Lemelin exploitera également ce filon en 1982 dans le crime d'Ovide Plouffe, qui sera porté à l'écran 2 ans plus tard par Denis Arcan. « Je suis certaine que ma mère ne doit pas avoir aimé ça », souligne Claire. Marie-Ange Robitaille devra changer de prénom pour retrouver une vie normale. Diplômée en technologie médicale à la fin des années 1950, elle se mariera sur le tard en banlieue de Québec après avoir gagné son indépendance financière. Ses enfants ne connaîtront son passé tumultueux qu'à la suite de son décès, en 2013, à l'âge de 83 ans. C'était « La tragédie de Sceaux au cochon, le silence de Marie-Ange », un texte de Dave Noël, paru le 6 septembre 2024 dans Le Devoir.
In Our Blood, le sang des nôtres, la réponse audacieuse de l'Australie face à l'épidémie du sida. Un texte de Benoît Mignot, paru le 29 août 2024 dans le magazine Fugue. Plusieurs pays proposent des productions télévisuelles portant sur l'émergence du sida sur leur sol respectif. On peut penser à Angels in America ou And the Band Played On, les soldats de l'espérance, pour les États-Unis, ou It's a Sin pour le Royaume-Uni. Moins connue, cependant, est la stratégie audacieuse mise en place en Australie et relatée dans la série In Our Blood, le sang des nôtres. La mini-série s'ouvre à Sydney en 1983, alors que les communautés LGBT se bercent d'illusions au regard d'un futur qui ne peut être que positif. Après tout, même si l'homosexualité est toujours criminalisée dans la plupart des États, l'arrivée au pouvoir du Parti travailliste et la mise en place d'un régime d'assurance maladie universelle semblent annoncer un vent de changement. Il y a bien cette vague rumeur au sujet d'un cancer gay, mais personne n'y prête réellement attention. Enfin, presque personne, puisque parmi les fêtards se trouve David Westford, Tim Drax, qui se trouve rapidement catapulté dans l'une des plus grandes crises sanitaires de l'histoire. À peine installé dans son nouveau poste de conseiller du ministre fédéral de la Santé, Jeremy Wilding, Matt Day, il prend connaissance de rapports alarmants sur une augmentation soudaine de décès touchant les hommes de sa communauté. La série dépeint efficacement le désarroi et la méfiance des communautés LGBT envers un mal que certains fanatiques cherchent à associer à une punition divine. Comme un peu partout à travers la planète, c'est cependant au cœur de ces mêmes communautés que surgissent les premières vagues de soutien, de recherche, de solutions et de campagnes de prévention. Tel que le souligne l'un des personnages, en quelques semaines, il passe d'un statut d'amant ou d'activiste politique à celui d'aide-soignant. La stratégie australienne est fascinante puisqu'on assiste à une alliance, sans précédent dans le monde et encore inégalée, entre le communautaire et les gouvernements fédéral et des États pour mettre en place des solutions concrètes en écartant toute partisanerie politique. Les personnages évoluent sur trois tableaux. La scène gouvernementale, l'action communautaire politique LGBT et l'espace personnel. L'aspect communautaire est éloquemment illustré par l'entremise des personnages de Deb et Mish, Jada Albert et Anna McGahan, deux lesbiennes qui mettent immédiatement en place un service de soutien. Le plus fascinant demeure cependant tous les échanges entre les représentants du ministère de la Santé, du milieu scientifique et des groupes communautaires qui, malgré de nombreux obstacles, mettent en place l'une des campagnes de prévention les plus percutantes de l'histoire. Même de nos jours, elle donne encore des frissons dans le dos. La série est adaptée d'une pièce de théâtre d'Adriano Cappelletta, ce qui transparaît notamment dans la présence ponctuelle d'un chœur grec formé de kidam, serveurs, clients de bar, hôtesses de l'air, fonctionnaires, etc., qui brise le quatrième mur pour présenter des informations contextuelles ou pour réinterpréter des chansons emblématiques des années 80. Un procédé sans aucun doute fort astucieux sur scène, mais qui est sous-utilisé au petit écran. En fait, on aurait souhaité en avoir plus, que ce soit sur le plan du développement de certains des personnages ou de l'aspect musical. Par ailleurs, la série souffre également d'un budget sans doute restreint, ce qui explique une facture qui a souvent peu de grandeur et une omniprésence de scènes intérieures. Malgré ses légers bémols, la série n'en demeure pas moins fort intéressante en offrant un regard pénétrant sur une période encore trop méconnue de la petite histoire gay australienne. Info. Les quatre épisodes de la série « Le sang des nôtres » sont offerts dans un bon doublage français sur tout.tv. La version originale anglaise « In Our Blood » semble plus difficile à dénicher sur les plateformes, mais les quatre épisodes sont pour le moment disponibles sur Dailymotion. C'était In Our Blood, le sang des nôtres. La réponse audacieuse de l'Australie face à l'épidémie du sida. Un texte de Benoît Mignot, paru le 29 août 2024 dans le magazine Fugue.